Scientifiques dans les oreilles. Les doctorants vous emmènent à la découverte du monde de la recherche. Par Nantes, ADBS et le Labo des Savoirs.
Bonjour Chloé, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Chloé Guillaume et je suis en deuxième année de doctorat à Nantes en biologie santé et je fais une thèse en neurosciences au laboratoire FAN pour physiopathologie des adaptations nutritionnelles.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre parcours ?
Alors après mon bac scientifique, je suis partie en licence de biologie à l'Université de Nantes. Après ma licence, j'ai voulu étudier plus précisément le cerveau et j'ai choisi de partir à Strasbourg pour réaliser le master de neurosciences. Et après mon master, j'ai passé le concours de l'école doctorale pour ma thèse actuelle que je réalise.
Du coup, sur quoi travaillez-vous au quotidien au sein du laboratoire aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'étudie le rôle d'une molécule qu'on appelle la cholécystokinine dans la plasticité d'une voie qu'on appelle la voie cortico-striatale. C'est une voie qui va être impliquée dans plusieurs choses, mais notamment dans le circuit de la récompense.
Ça m'a l'air bien compliqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la plasticité cérébrale ?
Alors, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau, et plus particulièrement des voies neuronales, de se modifier en fonction des besoins de l'organisme, en fonction de l'environnement, de ce à quoi un individu va être exposé. Ces voies neuronales, elles vont pouvoir devenir plus fortes ou plus faibles. Ces phénomènes de plasticité sont notamment très importants dans les phénomènes de mémorisation. C'est ça qui va permettre en fait, de conserver une information en mémoire.
Pourquoi faire une carrière dans la recherche ? Pourquoi vous avez été amenée à faire une thèse ?
J'ai choisi de réaliser une thèse et de m'orienter vers le monde de la recherche parce que je trouve que c'est un monde qui est très stimulant intellectuellement au quotidien. C'est un travail qui demande une grande variété d'activités. Il y a des jours où on va plutôt être faire un travail personnel, on va être à la paillasse, à réaliser nos manips. Des jours où ça va plutôt être du travail de bibliographie, lecture des articles. Ça demande aussi d'aller travailler avec les autres, de partager des connaissances avec les autres et de présenter nos résultats à la communauté scientifique, mais aussi avec le grand public. Et c'est cette variété que j'apprécie beaucoup. C'est d'évoluer dans un monde qui est très stimulant intellectuellement et ça satisfait ma curiosité naturelle. Et une des choses qui me plaît beaucoup dans le monde de la recherche, c'est qu'on est dans un monde où on souhaite produire des connaissances et acquérir des connaissances au quotidien. Et ça me plaît beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Des scientifiques dans les oreilles.
Patricia Parnet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de participer à notre série de podcasts des scientifiques dans les oreilles. Alors Patricia, vous êtes directrice de recherche en neurobiologie au laboratoire FAN, le laboratoire de physiopathologie des adaptations nutritionnelles. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le sujet de vos recherches et de celle du laboratoire ?
Bon, d'abord, bonjour, merci de m'avoir invitée pour cette émission. Donc, au laboratoire FAN, qui est un laboratoire de l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement, donc INRAE, se trouve au CHU de Nantes. Et notre thématique de recherche porte sur l'effet de l'environnement de la mère pendant la grossesse et pendant la période d'allaitement sur le devenir de son enfant. Donc, est-ce que cet environnement période fœtale et néonatale peut impacter le futur de l'enfant ? Quand on parle d'environnement, nous, dans notre unité, on s'intéresse principalement aux apports nutritionnels pendant cette période qu'on appelle la période des 1000 jours, donc de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Mais on peut aussi, dans d'autres unités, travailler sur l'environnement, l'impact de l'environnement naturel dans lequel vit cette femme enceinte, ou l'environnement psychosocial aussi. Donc il y a tout un tas de recherches dans ce domaine. Ce domaine, on l'appelle la DOAD, c'est l'origine développementale de la santé et de la maladie. Donc c'est vraiment comment, au début de la vie, tous ces impacts environnementaux auront des conséquences sur le devenir de l'individu.
D'accord, donc une recherche vraiment un petit peu pluridisciplinaire pour vraiment comprendre comment les premiers temps de vie vont être en fait super importants pour le développement de l'individu derrière, d'accord.
Voilà.
Et j'ai cru comprendre que vous travaillez un petit peu plus particulièrement sur le cerveau et son développement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu
plus ? Voilà, exactement. Donc moi, je suis neurobiologiste. Alors, plus neuro-endocrinologue que neurobiologiste. Mais dans notre unité, en effet, cet environnement nutritionnel nous intéresse particulièrement sur l'impact qu'il peut avoir sur le cerveau. Parce que le cerveau est un organe très, très demandeur d'énergie qui a besoin d'énormément de nutriments pendant la période fœtale, mais aussi pendant les 2-3 premières années de vie de l'enfant, tout simplement parce que c'est un organe qui se développe très très rapidement, qui est très gros, qui se développe très rapidement et qui nécessite beaucoup d'énergie. En fait, des défauts d'apport nutritionnel pendant cette période vont impacter son développement, donc tout le processus de neurodéveloppement, et peut avoir des conséquences par la suite sur le fonctionnement, aussi bien des effets psychocognitifs que des régulations de la prise alimentaire. Ça, c'est plus mon domaine de recherche, comment ces structures cérébrales qui régit en fait la régulation de la prise alimentaire, la faim, la satiété, les choix alimentaires peuvent être impactés par l'alimentation en début de vie.
Juste pour nos auditeurs, vous nous avez dit que vous êtes plutôt neuro-endocrinologue. Est-ce que vous pouvez définir le terme endocrinologie, du coup,
oui.
J'imagine ?
Donc l'endocrinologie, c'est l'étude des hormones, que les hormones, évidemment, régissent énormément de fonctions dans l'organisme. Et les neuro-endocrinologues, c'est vraiment ceux qui vont s'intéresser à l'effet des hormones sur le cerveau, mais aussi, surtout, comment le cerveau va réguler la production d'hormones, la synthèse, la sécrétion d'hormones. Quand j'ai commencé mes recherches, j'ai beaucoup travaillé en neuro-endocrinologie sur une petite glande qu'on appelle l'hypophyse, qui sécrète beaucoup d'hormones.
Alors justement, ça, on en arrive à la question suivante. Quel est le parcours universitaire et professionnel que vous avez vécu et qui vous a mené aujourd'hui à travailler sur ce sujet passionnant?
Donc, j'ai commencé tout d'abord par me casser les dents sur le concours de médecine. Voilà, à Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Donc après avoir échoué au concours, je me posais pas mal de questions sur la suite. Parce que j'étais vraiment très, très motivée par le monde médical. Donc, je me voyais, en fait, j'avais 16 ans, quand j'ai passé mon bac, je me voyais neurochirurgien, en fait. Donc, après avoir échoué à ce concours, je fais la faculté de biologie de Paris 6, à Pierre et Marie Curie, à Jussieu. Tout m'intéressait en fait, aussi bien la géologie que la biologie des populations, la biologie végétale, la biologie animale. Finalement, petit à petit, par mon parcours et les cours et aussi l'interaction avec les professeurs de cette université, qui est une très très grande université, une très bonne université, je me suis plus intéressée à la neurobiologie. Et puis ensuite, alors ça s'appelait le DEA, maintenant c'est ce qui correspond au Master 2, j'ai travaillé sur la neuro-endocrinologie, donc la régulation des hormones sexuelles liées à l'ovulation et à la procréation.
Oui, donc en fait, c'est la possibilité qu'offre l'université d'avoir un savoir divers et ensuite de nous spécialiser au fur et à mesure, au fil des années, dans ce qui nous intéresse le plus.
Voilà, tout à fait. Et en fait, on se rend compte quand on est passionné par un domaine, plus les années passent et plus ça devient facile, en fait. Donc voilà, j'étais vraiment passionnée par ça. Et puis ensuite, je suis partie pendant ma thèse aux États-Unis, là aussi dans une très bonne université, la University of California of San Francisco, donc l'UCSF, donc une université qui a quand même 8 ou 10 prix Nobel, je crois. Donc j'étais dans un environnement très médical, là, pour le coup. Donc je travaillais toujours en neurosciences, mais dans un très particulier, je travaillais sur les neuropeptides qui étaient synthétisés par les lymphocytes, donc des cellules plutôt liées à l'immunologie, à des cellules sanguines. Et là, j'ai découvert la recherche médicale qui m'a beaucoup intéressée. Et ensuite, voilà, je suis rentrée en France pour passer les concours et j'ai été recrutée à l'INRAE en 1991 à Bordeaux pour travailler sur un autre domaine, mais qui était en lien avec ce que j'avais fait aux États-Unis et qui était totalement nouveau parce que c'est ce qu'on appelait la neuro-immunologie. Et c'était vraiment les premières années de ce nouveau domaine de recherche.
Donc vous qui avez eu une expérience à l'étranger puis travaillé en France, qu'est-ce que vous a apporté, d'après vous, dans votre parcours ou dans votre façon de voir la recherche, cette expérience à l'étranger ?
Alors, en fait, j'ai eu plusieurs expériences à l'étranger. J'ai eu vraiment une expérience en tout début de ma carrière, hein, pendant ma thèse, où j'ai passé donc 2 ans et demi à San Francisco. Ensuite, j'ai été en poste et je suis retournée à l'étranger, à Seattle, dans une boîte de biotechnologie. Et donc, c'était des expériences très différentes. Mais ce que j'ai surtout noté, alors c'est vraiment lié au monde, aux Américains, en fait, c'est le pragmatisme des Américains qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et le fait que les choses se fassent autour d'une table, en discutant vraiment à bâton rompu avec les acteurs de la recherche, sans aucun tabou, et on prend des décisions très vite et les choses se disent vraiment cash. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'aimais. C'est vraiment ce pragmatisme américain. On a une idée, on discute, on agit et ça avance très vite. Et puis, bien sûr, ce que ça m'a apporté, c'est le fait de parler anglais, le fait de pas avoir peur de voyager, le goût du voyage. Je pense que c'est très, très bien en début de carrière de partir comme ça assez vite et se confronter à une autre société, une autre façon de voir les choses, de penser, de travailler.
Oui, des compétences, en fait, que ce soit la maîtrise de l'anglais ou une certaine ouverture d'esprit qui sont quand même assez, j'imagine... nécessaire dans la recherche en sciences aujourd'hui.
Tout à fait. C'est ça, cette curiosité aussi, hein, d'être toujours curieux de ce que les autres vont faire pour pouvoir discuter, puis faire avancer sa pensée aussi.
Et pour revenir donc toujours sur votre parcours, donc vous nous avez expliqué que beaucoup de choses vous intéressaient et qu'en fait, au fur et à mesure, la neurobiologie est un peu sortie du lot et vous a passionné. Mais à quel moment avez-vous envisagé de faire un jour votre vie, en fait, dans la recherche dans ce domaine?
Comme je vous l'ai dit, tout au début, hein, très très jeune, je rêvais d'être neurochirurgien. Donc en fait, le fonctionnement du cerveau m'a toujours fascinée. Hein, c'est l'organe, on va dire, le plus noble, hein, puisque c'est celui qui régit toute notre vie, nos pensées, nos désirs, nos fantasmes, notre façon d'être. Hein. Donc c'est vraiment un organe fascinant. Il y a énormément de choses encore à découvrir sur le cerveau. Alors maintenant, la recherche est quand même facilitée par les techniques, hein, qu'on n'avait pas quand j'ai commencé. Mais pour moi, ça reste un organe sur lequel il faut continuer à chercher. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans la recherche en général, hein, que ça a été en neuroendocrinologie, en neuroimmunologie, ou maintenant avec le thème de recherche qu'on fait au labo, c'est la communication entre les organes. Et le cerveau, il n'est pas tout seul, en fait, il communique avec le reste du corps dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est lui qui donne les ordres, mais aussi il reçoit plein d'influences de la périphérie. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est en fait étudier ce lien, cette communication entre les organes.
Donc on est vraiment dans de la physiologie générale, qui, du coup, oui, l'importance de ne pas isoler un organe.
Et c'est toujours très compliqué, même dans la recherche, cette histoire de communication, parce que les sciences sont cloisonnées parfois. Hein. Donc je vous ai dit, je faisais de la neuro-endocrino, ensuite de la neuro-immuno. Et en fait, très souvent, on est catalogué, on est immunologiste, on est neurobiologiste, on est endocrinologue. Et tout ça, ça ne se discute pas beaucoup. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est au contraire être à l'interface de champs disciplinaires et de comprendre les interactions.
D'où peut-être aussi votre intérêt de travailler sur le DOAD et dans le laboratoire FAN aujourd'hui, qui est un laboratoire qui va regrouper des microbiologistes, des physiologistes, des neurobiologistes.
Puisqu'on parle du laboratoire FAN, en plus de vos recherches, vous êtes la directrice de l'unité FAN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, aux auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément un peu le monde de la recherche, quels sont les enjeux de ce poste ?
En fait, être directeur ou directrice d'une unité de recherche, c'est un peu être un chef d'entreprise, en fait, puisque le travail est très vaste. Il faut recruter des gens. Donc, il y a un gros travail de RH, en fait. Il faut chercher des financements. Passe énormément de temps à cela, rechercher des financements. Et il faut permettre aux gens d'interagir ensemble, de dialoguer. Donc, il faut donner une impulsion du thème de recherche que l'on veut faire développer. Mais il faut aussi créer une ambiance dans un laboratoire pour que le dialogue se fasse. Comme vous avez très bien dit, on est à l'interface de champs disciplinaires assez différents. Il faut réussir à permettre à des microbiologistes de discuter avec des neurobiologistes ou avec des physiologistes du fonctionnement intestinal, de la fonction intestinale, pour que tout ça permette de sortir des idées nouvelles. Donc, il faut donner cette impulsion et se permettre ce dialogue entre les gens. Donc, et puis après, il y a tout le travail, régir le budget, travailler sur les locaux. Enfin, c'est vraiment un travail de chef d'entreprise. Dans l'unité, on est à peu près 40 personnes. Donc, c'est une petite ou moyenne entreprise à gérer.
Oui, donc des compétences diverses et variées à avoir finalement pour...
auxquels on n'est pas du tout formé. Il faut bien s'en rendre compte. On est des biologistes, mais on n'est pas du tout formé à ce genre de travail. Donc, c'est des choses qu'on apprend au cours du temps.
Si vous deviez nous résumer la recherche en trois mots.
Alors, la recherche en trois mots, je dirais passion, curiosité et frustration.
Une note optimiste.
Punir, ouais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ou un moment particulier dans votre parcours, une personne, un événement, une découverte qui vous a marqué ?
Je dirais justement le professeur que j'ai eu à Paris 6, qui était Monsieur Ozon et qui était un neuro-endocrinologue et qui m'a vraiment donné l'impulsion vers la recherche. C'est grâce à lui que j'ai fait mon Master 2. C'est là que j'ai découvert que j'étais probablement faite pour une carrière de scientifique. Et c'était un professeur d'une gentillesse incroyable, d'une ouverture d'esprit vraiment très, très, très intéressante. Et il cherchait toujours le meilleur dans ses étudiants et à les guider vers une voie. Et donc, moi, il m'a guidée vers la bonne voie, je crois.
Alors, merci, monsieur professeur Ozon. Et puis, pour finir... quel conseil vous pourriez donner aux étudiants, que ce soit des étudiants en licence, master ou des doctorants qui hésitent ou qui envisagent de poursuivre dans la recherche ?
Alors, un premier conseil, c'est faire des stages, vraiment. Aller taper aux portes et aller faire le plus possible de stages, tout simplement parce que, comme on l'a dit, le parcours d'études en biologie est très vaste. Et c'est assez difficile de savoir exactement vers quoi on veut aller. Les stages permettent de voir plein d'environnements différents, plein de thèmes de recherche différents, que ce soit recherche médicale, plus fondamentale, plus vers les mathématiques. À l'heure actuelle, en biologie, on a besoin énormément aussi de mathématiques avec les big data. Donc le champ est tellement vaste, il ne faut pas se fermer de porte. Et puis, rester passionné, très ouvert, aimer se poser des questions. Et puis continuer... Voilà, moi j'ai plus de 55 ans et continue à avoir envie d'apprendre toute sa vie.
Merci beaucoup pour ces conseils et ce témoignage. Je pense que beaucoup d'étudiants, de doctorants se retrouveront un petit peu dans vos mots. Merci beaucoup Patricia Parnet d'être venue aujourd'hui répondre à nos questions. Merci à Patricia Parnet d'être venue aujourd'hui répondre à nos questions. Cet épisode des Scientifiques dans les oreilles est terminé, il a été réalisé par Dounia Saez du Labo des Savoirs. Retrouvez l'association Nantaise ADBS sur Facebook et LinkedIn, ainsi que l'ensemble de nos épisodes sur Spotify. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt !